explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Il est le plus grand primate du monde, le plus imposant de tous les grands singes. Il nous inspire de la crainte, mais aussi de la sympathie. Dans l'imaginaire collectif, le gorille est un gentil géant qui se nourrit principalement d'herbes. Le grand mâle adulte, le fameux dos argenté, est le chef incontesté de son groupe de femelles et de sa progéniture. Il règne en maître sur son clan, dont il assure la protection et la cohésion. C'est aussi l'image que se faisait Shelly Massy de cet animal quand elle est partie étudier les gorilles des plaines de l'Ouest en République centrafricaine. Cette espèce de gorille avait alors été très peu étudiée. En l'observant vivre pendant des années dans la jungle, la primatologue est allée de surprise en surprise. Elle s'est aperçue que les règles qui régissent la société de ces grands singes sont plus flexibles et plus subtiles que ce que l'on a longtemps raconté. Elle a vu que les membres du groupe peuvent voter pour prendre des décisions auxquelles le mâle dominant se soumet. Elle a également découvert qu'il arrive que des femelles prennent le pouvoir. Shelly Massy est aujourd'hui la seule spécialiste des gorilles en France. Elle vient de publier un livre passionnant intitulé Queen Kong aux éditions Albin Michel, dans lequel elle raconte son travail de terrain et ses découvertes. Cet après-midi, Shelly Massy nous emmène bivouaquer au cœur de la jungle, au milieu des gorilles. Et en fin d'émission, notre sociologue de l'alimentation préférée, Éric Birloise, nous conduira lui sur les routes de l'asperge. Emma Bouvier a préparé cette émission, David Leprince la réalise, avec à la technique aujourd'hui Jérôme Ragano. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Je me rappelle encore le jour où je me suis trouvé pour la première fois face à face à une troupe de gorilles. Ils étaient à moins de 50 mètres de l'autre côté d'un ravin. Dès qu'ils me virent, ils me tournèrent le dos. Tout ce qu'ils savaient des hommes, braconniers ou gardiens de troupeaux, c'était qu'ils étaient des ennemis. Pour qu'ils se sentent en confiance, je décidai d'imiter leurs attitudes, leurs gestes. Par exemple, d'arracher et de brasser des feuilles comme ils le font eux-mêmes pour se nourrir. Ce serait la première fois qu'ils rencontreraient une autre créature ayant les mêmes pratiques alimentaires qu'eux. Ils ne pouvaient qu'en être intrigués.
D'une pionnière de l'étude des gorilles, Diane Fosset. Bonjour Shelly Massy.
Bonjour.
L'espèce de gorille qu'a étudiée Diane Fosset est différente de celle sur laquelle vous travaillez depuis maintenant près de 25 ans. Diane Fosset s'est intéressée aux gorilles des montagnes, ce sont les plus connus, on appelle aussi les gorilles de l'Est. Et vous, on a compris plus récemment que l'espèce sur laquelle vous travaillez, de gorille, est une autre espèce que celle de Diane Fosset.
Oui, exactement. C'est le gorille de l'Ouest qui est notre espèce la moins étudiée de gorilles parce qu'effectivement, jusqu'à 2000, on connaissait que les gorilles de montagne. Ouais. Et on pensait que tout ce qu'on avait observé sur les gorilles de montagne était applicable aux gorilles de l'Ouest. Et aujourd'hui encore, mais il y a des primatologues qui pensent que les gorilles de montagne sont l'exemple de gorilles pour tous les gorilles. Et c'est pas vrai du tout.
Alors que ce ne sont pas les mêmes. Déjà physiquement, alors le gorille des montagnes, celui de Diane Fosset, celui que l'on connaît le plus, il est plus gros, plus mastoc, il a des poils plus longs.
Longs, parce qu'il habite dans les montagnes où il fait froid, donc il a les poils plus longs, il est le mâle dominant, le mâle dos argenté, il est 2 mètres 200 kilos, et or que les dos argentés de gorilles de l'Ouest sont 180 kilos et 1 m 80.
Oui, ce qui est déjà quand même une belle bête, hein, 180 kilos, 1 m 80, on a quand même déjà affaire à des animaux imposants. Vous les avez rencontrés très tôt, hein, vous étiez encore étudiante, vous postulez à un stage, au début on vous dit que c'est pas possible, puis au dernier moment, la stagiaire qui était censé faire ce long stage d'observation de ces gorilles rend son tablier tellement c'est dur, parce que vraiment les conditions sont dures pour observer.
Oui, la forêt est compliquée là-bas, un peu plus que celle de montagne, je dirais.
Oui, c'est ça, c'est vraiment un vrai travail de terrain. Vous sautez sur l'occasion, vous y allez. Et votre première rencontre, c'était il y a 25 ans, mais elle vous a laissé un souvenir impérissable. Ah. Raconté chez Limassi.
Je pourrais jamais l'oublier parce que tout d'abord c'était ce qu'on appelle en Italie le rêve dans les tiroirs. C'était mon rêve depuis j'étais toute une petite fille de 8 ans. J'avais le rêve d'étudier les gorilles parce que j'avais vu un documentaire. Il me semblait très sensible parce que j'ai vu deux gorilles de montagne, parce qu'à l'époque on voyait que les gorilles de montagne dans les documentaires, qui caressaient un caméléon et qui étaient complètement fascinés par ce caméléon. Et donc un animal qui observe un autre animal, ça m'a frappé parce que je pensais qu'il aurait dû être si sensible, je voulais comprendre leur esprit.
C'est joli cette expression italienne, un rêve dans le tiroir. C'est un rêve absolu mais qu'on pense qu'on ne réalisera jamais. Hein.
Exactement, c'est les rêves enfermés dans les tiroirs qu'on ne pense jamais de réaliser.
Et vous l'avez réalisé.
Et je n'aurais jamais pensé qu'en plus je faisais de ça, de ma passion, mon travail.
Ouais. Alors racontez cette première rencontre alors.
J'étais vraiment excitée dans la forêt de rencontrer les gorilles, mais il m'avait dit les gorilles ne sont pas habitués à l'homme, donc tu vas sûrement que les entendre au milieu de la végétation qui va bouger, c'est tout. Donc c'était ça mon attente. Et par contre, on était dans la forêt très très dense, on marchait très lentement et finalement on n'avait pas entendu que les gorilles étaient proches. Et on a trop approché les gorilles et le dos argenté est sorti de la végétation en criant et en faisant une grande chasse. Jusqu'à prendre la jambe de pisteur qui était juste en face de nous.
C'est-à-dire
donc c'était effrayant.
Vous partez avec des pisteurs, alors ce sont des autochtones qui connaissent très bien ces gorilles, alors pendant des années ils les chassaient, maintenant c'est pour des études mais ils mettent à profit des études scientifiques, leur connaissance de ces animaux, et malgré toutes ces connaissances, là le pisteur n'a pas vu venir et le gorille ne s'est pas contenté de menacer, il a vraiment attaqué.
Oui, parce que on est des humains, donc même si les pisteurs, les acas sont, ils ont des sens bioniques, je dirais, parce qu'ils voient, ils entendent beaucoup plus que nous. Ouais. Parfois, c'est impossible de les entendre parce que les gorilles sont très, ils font pas trop de bruit. Et donc ils les ont pas vus. Et en plus, il y avait un nouveau dans l'équipe qui a bougé. Et il faut jamais bouger pendant une attaque. Mmh. Et donc, face si on bouge, il va nous attraper ou mordre.
Ouais, face à un gorille qui se montre menaçant, c'est vrai que ça peut être très impressionnant, un gorille qui attaque. Ça peut ressembler à ça chez Limassi.
Ça peut durer plus que ça. Ça peut durer quelques minutes et on voudrait vraiment télétransporter dans un autre endroit.
Être ailleurs.
Parce que on peut pas bouger et on doit rester immobile sans bouger.
C'est ça. La conduite à adopter, c'est de ne surtout pas montrer qu'on a peur et c'est de ne pas bouger alors que le gorille se montre menaçant comme ça.
Et avec des canines qui sont plus de 10 cm et qui crient, et c'est pas facile.
Alors, Par contre,
j'étais très contente. C'est ça que je voulais dire.
Ah bah,
même si c'était très agressif, moi j'étais extasiée par la vision d'un gros dos argenté juste à quelques centimètres de nous.
Vous avez trouvé cette première expérience fascinante alors que le groupe s'est rendu compte qu'ils étaient passés à deux doigts de la catastrophe, que ce qu'ils venaient de vivre était quelque chose de très grave. Vous, comme vous débarquez vous croyez que c'était comme ça que ça se passe la rencontre avec les gorilles. Il n'y avait pas d'appréhension. Alors, c'est pisteurs qui vous emmènent sur la trace des gorilles. Vous le disiez, ils ont une ouïe incroyable pour les entendre, ils ont aussi un flair. C'est-à-dire, et ça c'est fascinant, ils arrivent à reconnaître l'individu, une fois qu'ils ont appris à bien les identifier, l'individu sur la piste duquel ils se trouvent, uniquement à l'odeur.
Oui, c'est ça. La majorité d'entre eux, ils sont incroyables. Et c'est eux qui m'ont effectivement montré que chaque individu avait une odeur différente. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on suivait une de mes femelles préférées parce qu'on sentait l'odeur était différente.
Alors, l'intérêt de les pister comme ça, c'est de faire ce que l'on appelle l'habituation. C'est-à-dire, là, la première fois, lorsque vous vous êtes fait charger par un gorille, manifestement, il n'était pas vraiment habitué. Mais quel est le principe de cette habituation et combien de temps ça peut durer, ce travail d'habituation?
Alors, c'est ça. Les gorilles de l'Ouest sont pas beaucoup connus parce qu'ils sont très difficiles à être habitués à la présence humaine. On prend 8 ans pour les habituer à l'homme. Or que les gorilles de montagne, grâce à la pente, donc on peut les approcher de façon un peu plus tranquille. Ouais. La végétation aussi est différente. Il prend que 2 ans. Et donc c'est pour ça qu'on a quasiment toute la population des gorilles de montagne qui est habituée à l'homme, mais on n'a que 4-5 groupes au monde de gorilles de l'Ouest qui sont habitués.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile, mais c'est important de les habituer parce que ça nous permet vraiment de les regarder sans modifier leur comportement. Ouais. Ils nous tolèrent.
Voilà, c'est ça. Le principe de l'habituation, ça n'est pas d'en faire des amis ou de les apprivoiser, c'est juste que vous fassiez partie, vous, les humains, du paysage et qu'ils soient complètement indifférents à votre présence.
Oui, c'est le but, c'est de devenir un élément neutral de l'environnement.
Ouais, neutre.
Avant, j'avais l'habitude de dire c'est comme si on est un arbre de la forêt, mais c'est pas vrai.
Ouais,
je me suis rendu compte qu'on n'est pas un arbre. On est un autre animal qui peut rentrer en compétition d'espace ou d'alimentation avec on est à côté d'un fruit que le doigt argenté veut prendre, même s'il est très habitué, il peut nous charger.
Alors, avant de cette interaction parfois un peu directe, il faut suivre leurs traces. Et dans les pays limitrophes, hein, dans lesquels on peut aussi approcher ces gorilles, il y a par exemple le Gabon. Et là aussi, les pisteurs savent mieux que personne lire les traces qu'ils laissent ces gorilles dans la végétation.
Ça, c'est le reste de nourriture des gorilles. C'est un groupe de 16.
Donc, il arrache les feuilles et il prend juste la base, en fait, la base qui est tendre ici et qui a moins de fibres. Donc en fait, c'est ça qu'il mange. Et après, la partie là, hop, il jette. Et puis ça, pour nous, c'est une bonne trace de leur présence, quoi. Savoir s'ils sont passés là et quand ils sont passés là. Et là, on voit des traces assez fraîches, non ?
Mm-hmm.
Elles datent de ce matin, c'est-à-dire ?
Ce matin, oui.
Comment on voit la différence, hein, si c'était aujourd'hui et hier ?
Aujourd'hui, c'est que là, ça devait être encore plus...
Plus vert ?
Ouais.
C'est les graines qui mangent ?
Ah oui, oui.
Il va les chercher dans l'arbre ou il attend qu'elles tombent ?
Non, il envoie les femelles là-haut, lui-même il attend bas.
Ah ouais ? Et les femelles en font tomber ?
Ils les font tomber, oui.
Ah, macho.
Voilà le genre de trace ténue, hein, une couleur de feuille arrachée qu'il faut savoir lire, hein, c'est vraiment extrêmement précis. On entendait aussi dans l'extrait chez Limassi que les femelles pouvaient monter dans les arbres, c'est vrai qu'elles sont plus légères et plus souples pour monter dans les arbres, et qu'il leur arrivait de délivrer des fruits, parce qu'ils mangent aussi des fruits pour les mâles. À vous lire, tout le monde n'est pas vraiment d'accord avec cette théorie. Hein. Le gorille, même quand il vit soudé en clan sur la nourriture, il n'est pas franchement partageur.
Non, absolument.
Oui.
Et c'est vrai aussi que le mâle aussi peut monter sous les arbres. Ça, c'est aussi une autre chose que ça a été démonté en regardant les gorilles de l'Ouest. Parce qu'avant, on pensait que les mâles ne montaient pas sous l'arbre avec les gorilles de montagne, mais ils montent sous les arbres.
Ouais.
Et aussi, les femelles sont très... Elles essayent toujours de monopoliser la nourriture pour la garder pour elles-mêmes.
Mais même avec leurs propres enfants, elles distribuent pas facilement la nourriture. Même à leur propre progéniture.
Oui, c'est ça. Ça m'a remarqué beaucoup quand je suis allée observer les chimpanzés en Ouganda. Les mères donnent la nourriture aux bébés. Or qu'avec les gorilles, j'étais habituée de voir les mères qui volaient la nourriture des mains des bébés, mais même des bébés de 1 an.
Bon, ben c'est du joli. Vous avez goûté les fruits qu'ils mangent. Hein. C'est pas les fruits qu'on connaît. Hein.
Ah non, ça c'est très important. Effectivement, tout le monde pense qu'on trouve la papaye ou la banane dans la forêt.
Ouais.
Tout d'abord,
il n'y a
rien de fruits qu'on connaît.
Ouais.
Et de plus, les fruits qu'il y a, même s'ils peuvent sembler très bons, parce qu'ils sont rouges, succulents, mais en réalité, ils ne sont pas sucrés comme les fruits qu'on mange. Parce que les fruits qu'on mange ont été domestiqués par l'homme, donc ont été sélectionnés pour avoir beaucoup de sucre et moins de fibres. Les gorilles mangent des fruits qui sont beaucoup moins sucrés et beaucoup plus fibreux des nôtres. Ce sont des fruits qui sont sauvages.
Ouais. Mais vous avez quand même eu le courage d'y goûter.
Oui, parce que ma recherche doctorale était vraiment sur l'alimentation des gorilles. Ouais. Donc, je me suis prêtée à les goûter.
Ouais.
Il y a certains qui sont bons.
Il y en a quand même qui sont bons. Ça avait l'air pas terrible.
Qui sont un peu plus sucrés.
Ah oui, quand même, un petit peu.
Oui.
Alors, pour chercher ces fruits, hein, ça leur demande vraiment de marcher énormément, hein, jusqu'à 2 km, voire 10 km par jour. D'où la difficulté aussi de les suivre tout au long de leur périple. Et pour savoir où aller, quand partir, dans quelle direction aller, bien, là déjà, première découverte qui montre que ce n'est pas le dos argenté, le fameux mâle dominant qui décide de tout. On vote, c'est démocratique.
Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, les gorilles sont un bon exemple de démocratie parce qu'on pensait d'abord que l'Édouard Argenté était le chef incontesté et que c'était lui qui conduisait les groupes partout et qui prenait la décision pour le groupe. Mmh. Et par contre, au fur et à mesure des observations que j'ai faites en forêt, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas pour toutes les situations. Mmh. Bien sûr, souvent, c'est lui qui décide, mais il y a des situations dans lesquelles aussi les femelles les plus dominantes, elles peuvent déclencher le mouvement du groupe. Et surtout, c'est une expression, quelque chose comme un vote, parce que si un nombre suffisant d'individus s'exprime qu'il veut partir, alors tout le groupe peut partir sans que le doigt argenté se soit même exprimé. Ouais. Et comme ils font des vocalisations, des grognements comme « et donc on peut entendre si il y a plusieurs individus qui font ça, alors tout le groupe part.
Ah oui.
Et ça, c'est une décision collective qui montre que quand même, ils sont très démocratiques.
Ouais, allez, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Vous avez découvert beaucoup de choses en observant les gorilles, et notamment le rôle et la place des femelles dans le groupe. Nous allons en parler avec vous dans un instant. La primatologue Shelly Massy nous emmène bivouaquer au milieu des gorilles cet après-midi sur France Inter. C'était les mamans du Congo qui chantaient Dia sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
C'est un langage qu'on a adapté pour habituer le gorille.
C'est vous qui avez inventé ce langage pour lui dire que vous arrivez?
Oui.
Pour qu'il soit tranquille?
Pour qu'il soit tranquille. Donc c'est une façon de nous annoncer.
Essayer de rentrer en contact avec Kingo et sa famille. Ils sont à environ 35 minutes de marche du campement. Oh, ils sont là. C'est Kingo qui est en train de se frapper la poitrine. En général, il fait ça pour regrouper les femelles ou pour éloigner un grand mâle qui essaye de s'approcher du groupe. Il est juste derrière, tu le vois. Essayer de se rapprocher des femelles qui sont un petit peu derrière. Quand je les regarde dans les yeux, je peux pas m'empêcher de penser qu'ils sont de la même famille que nous.
Extrait de C'est pas sorcier avec le journaliste Fred Courant dans la forêt congolaise sur la piste d'un clan de gorilles de l'Ouest. Notre invité, Shelly Massy, primatologue et maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, est la spécialiste en France de ces gorilles qu'elle étudie sur le terrain depuis près de 25 ans. Et Kingo, dont on vient d'entendre parler, vous l'avez suivi vous aussi.
Oui.
Même si vous êtes en République centrafricaine, c'est juste à côté du Congo et les gorilles sont tout proches et vous êtes allé jusque là-bas pour les observer.
Oui, parce que c'est le groupe voisin qui est habitué, donc je suis allé les étudier pour quelques mois.
On entendait Fred Courant, le journaliste, dire que devant le regard d'un gorille, il y avait cette proximité, vraiment l'impression d'être devant des cousins très proches. Vous l'avez aussi ressenti, ça, au contact de ces grands singes?
Oui, je dirais que c'est impossible de le ressentir.
De ne pas le ressentir.
C'est tellement frappant et incroyable de regarder un gorille dans les yeux et être regardé, ça semble un privilège plutôt que lui regarde nous, parce que c'est vraiment quasi humain.
Ouais. On entendait aussi dans cet extrait les pisteurs qui font, en approchant les gorilles, un claquement spécifique avec la langue. Ça sert à quoi? Quel effet ça a sur les gorilles?
Alors, c'est un claquement qu'on fait. Ouais. Et c'est fait au début de l'habituation pour les prévenir pour qu'on est là et donc pour faire associer notre image à ce claquement. Et après, il comprend que c'est notre vocalisation. Et une fois qu'ils sont habitués, c'est vraiment pour les prévenir qu'on est en train de les approcher et que le bruit qu'il entend, c'est nous et c'est pas un autre mâle qui veut les attaquer ou des braconniers. C'est pour faire la différence.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux attitudes. À la fois, vous avez appris très tôt sur le terrain à marcher furtivement, à ne surtout pas faire de bruit, à lever les pieds dans la végétation, et à d'autres moments, il faut être capable de s'annoncer.
Oui, parce que effectivement, pour l'habituation, il faut les approcher sans se faire repérer. Et après, une fois qu'on est suffisamment proche, il faut se faire, par contre, regarder, identifier pour qu'ils puissent s'habituer au fur et à mesure. Ouais. Mais de toute façon, dans la forêt, il faut marcher doucement et sans faire bruit, exactement comme vous l'avez décrit, parce que il y a aussi d'autres animaux comme les éléphants de forêt qui, s'ils nous détectent, peuvent nous charger et sont très méchants.
Ouais, ça c'est le presque plus gros danger que les gorilles, c'est les éléphants des forêts. Ce qui vous fait dire dans votre livre que parfois, alors c'est à certaines saisons, mais quand vous vous promenez ou en tout cas quand vous évoluez, vous explorez cette forêt, vous avez le sentiment d'être dans un film de Jurassic Park.
Ah oui, totalement.
Avec peut-être le tyrannosaure qui peut à tout moment débarquer.
Oui. Et on marche en se regardant derrière, à côté, en face, parce qu'on ne sait jamais, parfois, ça peut vraiment sortir d'un mètre de toi et il faut courir le plus vite possible.
Ah oui.
Et je vous assure que courir le plus vite possible dans la jungle avec les épines, les troncs à terre, les lianes, ce n'est pas possible.
C'est pas facile. Mais ça veut dire, alors, autant pour le gorille, vous nous avez dit, face à un gorille qui charge, on ne bouge surtout pas, on fait face et on ne montre pas qu'on a peur. Face à l'éléphant, on ne fait pas le malin, on court.
Ah non, il faut disparaître le plus vite possible. Et la chose la plus difficile, c'est quand on est avec le gorille, on est en train d'observer le gorille, et derrière, il y a l'éléphant qui arrive. Donc, on est entre deux forces opposées.
Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait?
Dans ce cas-là, il faut être calme. Et les pisteurs ont la tendance à fuir l'éléphant parce qu'ils ont plus peur de l'éléphant que de gorille. Mmh. Mais moi, je les attrape et je dis non, il faut à partir du côté très très doucement et après courir.
Et les gorilles, eux, ils font quoi face aux éléphants?
C'est ambivalent, ça veut dire, ça dépend de la situation. Parfois, ça, j'ai décrit dans les livres qu'on est échappé ensemble dans un groupe de gorilles, d'éléphants.
Ah oui, c'est le sauf qui peut général, gorille et humain qui détale.
Oui, donc si le gorille est en train d'échapper, c'est bien, on peut échapper aussi. Mais parfois, ça dépend de la végétation. S'il se sent protégé, il reste.
Alors, vos travaux apportent un éclairage inédit sur les femelles. Et c'est ce qui est passionnant dans votre ouvrage. D'ailleurs, vous l'avez intitulé Queen Kong, et pas King Kong, mais Queen Kong chez Albin Michel, votre livre. C'est bien que vous avez eu cette révélation en observant ces gorilles, aussi bien mâles que femelles. Vous y alliez, vous avez l'honnêteté de le dire, c'était les mâles qui vous intéressaient, les mâles dominants, c'est de eux dont vous aviez entendu parler. Et au détour de vos observations, votre regard a bifurqué vers les femelles et vous avez trouvé qu'elles étaient passionnantes.
Oui, c'était une grande surprise pour moi-même aussi parce que je suis partie, j'étais totalement fasciné par le dos argenté. Il est gros, il est beau, il est tout coloré, le dos, l'argent qui passe de la tête jusqu'au talon. Et il est charismatique. Et les femelles, si on les regarde, ça semble des australopithèques. Elles sont beaucoup moins colorées, sont un peu plus moches.
Australopithèques pour les femelles, bon.
Et donc, j'étais pas trop fascinée par eux, mais au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé que les doigts argentés étaient pas intéressant parce qu'il est dominant sur tous les autres. Et donc, il mange, il dort.
Oui,
il marche,
on s'ennuie vite à ce rythme-là.
Et par contre, les femelles, elles doivent s'ingénier pour trouver des solutions, pour aller trouver à manger. Et sont parfois, ce que j'ai pu me rendre compte, elles sont clés dans la dynamique du groupe.
Ouais. Grande intelligence, effectivement, ce rôle social plus intéressant, une grande curiosité. Et puis, il y a des rencontres individuelles quand vous observez ces groupes. En fait, vous avez, on va dire, une chouchoute au bout d'un moment. Mmh. Elle s'appelle Maloui. Cette femelle, vous la décrivez comme à la fois très ingénieuse, assez rebelle, un tempérament extraordinaire. Pourquoi elle vous a séduite, cette femelle Maloui?
Elle était différente que les autres. Quand, au début que on a commencé, que j'ai commencé à étudier le groupe Macumba dont Maloui faisait partie, elle n'était pas la dominante, mais elle était toujours en train de protester et de monter dans la hiérarchie. Et elle a des yeux qui sont vraiment charismatiques. Mmh. On voit la lumière dans ses yeux. Ouais. Elle est très, très intelligente.
Un regard intelligent. Et alors, on sent que vous avez développé, même si ce n'est pas le but, normalement, voilà, vous êtes des scientifiques, vous n'êtes pas là pour créer une relation affective avec ces animaux. Avec elle, vous dérogez à une règle que vous étiez fixée.
Avec elle, oui, parce que un jour, normalement, on ne doit pas interagir avec les gorilles, on doit rester neutral. Mais un jour, j'étais en train de prélever son urine, l'urine de Maloui, à terre avec une pipette en plastique, on peut la prendre juste après l'émission de l'urine. Et elle me regardait en faisant ça, et après j'ai passé des gouttes d'urine sur une bandelette urinaire, comme les bandelettes qu'on utilise pour
faire
l'homme,
des tests, pour faire des tests.
Et elle me regardait en faisant tout ça, donc je me suis sentie obligée de lui expliquer qu'est-ce que j'étais en train de faire.
Donc
et je l'ai fait en italien. Parce
vous lui avez parlé en italien. Vous pensez que le gorille comprend mieux l'italien?
Non, mais tout le monde me dit que l'italien chante, donc j'ai parlé dans une langue qui était douce.
Elle vous a écouté?
Elle m'a écouté du début jusqu'à la fin. Elle avait vraiment ses yeux capturés par moi.
Mais clairement, il sait, vous disiez, notre rôle, c'est de rester neutre et d'être un arbre, même si vous savez que vous n'êtes pas perçu comme un arbre pour ces animaux. Il y a quelque chose de plus fort encore. Vous revenez sur le terrain, vous ne l'avez pas vu depuis 2 ans, et vous sentez que Maloui, donc cette femelle gorille, vous reconnaît.
Oui, oui, c'était vraiment étonnant. Je ne m'attendais pas du tout parce que normalement, on n'interagit pas. Mais effectivement, elle m'a vue de loin. Elle était en train de marcher et elle s'est vraiment arrêtée avec les talons soulevés parce qu'elle était choquée par le regard qu'elle avait en face d'elle de me revoir après 2 ans.
Vous avez vu la surprise, en fait. Dans son attitude, elle était clairement surprise de vous voir.
Totalement focalisée sur moi. Elle m'a fixée pour quelques minutes. Et aussi, d'autres individus ont montré de me reconnaître à la même manière où une petite, elle est venue chercher de me toucher pour 3 jours de suite parce qu'elle ne croyait pas que j'étais revenue.
Ah, oui, oui.
Mais bien évidemment, il faut toujours reculer et pas voir des contacts pour éviter la transmission des maladies de nous vers les gorilles.
C'est ça. Même vous avez des masques, des masques comme quand, en période de pandémie, sur le nez et sur la bouche, pour ne pas transmettre nos virus humains à ces gorilles. La proximité entre nous et ces grands singes fait qu'on pourrait leur transmettre nos miasmes.
Oui, parce qu'ils sont tellement similaires à nous qu'ils peuvent attraper nos maladies, mais ils n'ont pas les défenses immunitaires pour se défendre. Et donc, un simple rhume peut tuer un gorille. Donc, on ne veut pas... On maintient une distance. Ouais.
Vous dédiez votre livre à un des gorilles. Alors là, c'est un mâle, un des gorilles que vous avez observé, qui s'appelle Macumba. Tous ces gorilles que vous observez, vous leur donnez des noms. Pourquoi vous le dédiez à Macumba?
Parce que je dois tout à Macumba. Et c'est un peu l'héritage de mon début, que j'ai adoré les doigts argentés. Mais c'est grâce à lui et à son groupe que j'ai pu faire la majorité de mes études. C'est vraiment mon professeur de la forêt.
Ouais.
Et je dois tout à lui. Et il venait de mourir Il y a un an à peu près, c'était le jour de mon anniversaire, ouais. Et quand j'étais en train de terminer ce livre. Ouais. Donc c'était le minimum que je pouvais faire, ouais, pour tout ce qu'il a fait pour moi.
Ouais. On sent, hein, tout le lien affectif, mmh, malgré tout, malgré la distance, malgré les règles que vous fixez, le lien affectif que vous nouez avec ces animaux. Et puis il y a aussi le fait qu'on essaye de comprendre les sons qu'ils peuvent émettre. Vous vous êtes intéressé, hein, aux vocalisations des gorilles et c'est pas toujours facile d'en comprendre le sens.
Les vocalisations les plus courantes chez les gorilles sont les grognements et les grondements. Ils en émettent plus de 10 ou 12 chaque heure. Ça ressemble à un son très rauque. Mais c'est très difficile de déterminer la fonction de chacune de ces vocalisations, car les gorilles les utilisent dans des contextes très variés.
Entre les grognements, la voix de l'anthropologue Roberta Salmi en 2013, chez Limassi, est-ce qu'on a progressé depuis sur le sens de ces vocalisations? Que sait-on de la communication chez les gorilles de l'Ouest?
Oui, parce qu'au début, on savait surtout les choses sur les gorilles des montagnes. Et là, heureusement, avec des étudiants et d'autres collaborateurs, on a étudié effectivement la communication. Et on a voulu étudier surtout que les situations dans lesquelles les gorilles étaient obligés d'être ensemble. Parce que chez les gorilles, il y a l'infanticide. Ça veut dire qu'un mâle extérieur peut attaquer un groupe pour tuer les enfants. Et donc, c'est crucial pour les gorilles de rester cohésifs. Donc, tout le monde reste ensemble. Pour faire ça, il faut quand même un certain degré de coordination. Et la coordination, c'est fait avec les vocalisations.
Ouais. Alors, par exemple, dans les vocalisations, il y a ce grognement, un enregistrement que vous nous avez apporté chez Limassi, un son bien particulier.
Oui,
ils émettent ça à quel moment, ce grognement un peu lancinant, un peu qui module?
Oui, c'est ça. Ça me rappelle beaucoup ce qu'on fait quand on mange. Niam, 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 niam. Parce que parfois, les petits font plutôt niam, niam, niam. Et c'est effectivement fait pendant l'alimentation.
Okay.
Et donc, c'était une vocalisation qui m'a toujours intriguée, bien avant aussi d'aller chez le gorille. Je l'avais lu à l'université. Parce que c'est une vocalisation que des individus font pour appeler les autres. Mais certains se fâchent avec les autres qui arrivent. Donc, on ne comprend pas pourquoi ils le font. C'est pourquoi dire aux autres, j'ai trouvé quelque chose à manger si tu ne veux pas que les autres arrivent.
Si finalement, oui. Alors oui, c'est un peu contradictoire.
Bah, oui.
Pourquoi les appeler si on ne veut pas partager le festin?
Et oui. Et donc, c'est pour ça que je les ai voulu étudier de façon précise. Et finalement, j'ai pu comprendre avec les données que c'est tout le monde les fait, mais c'est surtout les femelles, à nouveau, qui le font pour attirer le groupe, mais pas. Donc, les résultats, c'est que plusieurs individus arrivent, mais en réalité, les femelles le font quand elles arrivent dans un arbre. Imaginez un beau arbre plein de fruits qu'elles veulent partager avec ses enfants et le mâle. Donc, une fois que les doigts argentés, une fois que ses enfants et les doigts argentés qui lui servent pour la protection des enfants arrivent, alors elle termine de le faire. Mais elles sont clés pour faire venir tous les autres à cet arbre-là.
Ils se frappent aussi, ces gorilles, surtout les mâles, la poitrine. Ça fait ce bruit-là quand ils se frappent. Pourquoi font-ils ça?
Alors, ça, c'est une communication qu'on appelle de longue distance. C'est surtout, ça peut avoir différents significats à l'intérieur, au sein du groupe. C'est plutôt quand il y a un individu qui est éloigné, s'est perdu.
Ouais.
Et donc, le doigt argenté peut se frapper la poitrine. Ça va voyager pour un kilomètre et l'autre individu peut entendre. Donc,
jusqu'à un kilomètre, on entend le tambourinement de poitrine.
Oui, ça peut, parce que c'est beaucoup plus puissant de ce que vous
de ce qu'on entend là.
Ouais.
Ah, il y a aussi des échanges plus sonores, hein, comme celui ici. Ah, ça y est, là, ça s'énerve. Qu'est-ce qui leur arrive là?
C'est les femelles qui se battent contre l'une contre l'autre pour la nourriture. Souvent, c'est les femelles, pas les dominantes, pas les moins dominantes, c'est celles du milieu qui font des bagarres pour la nourriture.
Est-ce qu'on peut parler d'une forme de proto-langage chez les gorilles ou je m'avance un peu trop?
C'est un peu la question du moment, si on a une proto-syntaxe chez les primates, en général chez les grands singes, donc gorilles, chimpanzés, orang-outans. Effectivement, ce qu'on est en train d'étudier, c'est si les vocalisations peuvent se combiner pour avoir des significats différents.
Des sortes de phrases, une façon d'agencer des séquences qui seraient les mots pour faire des phrases.
Qui ont d'autres significats dans d'autres contextes, mais parfois ce que je vois, c'est que dans des situations précises, particulières, il peut combiner ces vocalisations comme une phrase.
Allez, nous poursuivons nos explorations à la rencontre des gorilles avec la primatologue Shelly Massy. Le temps d'un bivouac dans la jungle, au milieu du plus grand, avec le plus grand des primates du monde, cet après-midi sur France Inter. C'était Léonie Pernet qui chantait « L'horizon ose ».
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Zaha, un jeune dos argenté, s'est installé d'un côté de l'étang, ce qui provoque la jalousie des autres. Des mâles à dos noir, plus jeunes que Zaha, s'approchent. Ils sont 5 contre 1. Mais le jeune dos argenté a des choses à prouver. S'il arrive à convaincre les femelles qu'il a les qualités qu'il faut, elles accepteront peut-être de venir le rejoindre. Le chef des dos noirs est presque aussi gros que Zaha. Et il se sent de taille à le battre.
Ambiance. Nous étions dans un extrait du documentaire Le Royaume des Singes, diffusé sur la chaîne nationale Géo Wild. Alors, Shelly Massy, parmi ces mâles gorilles, il y a les mâles à dos argenté dont nous avons parlé, et là on entend parler des mâles à dos noir. Comment un mâle devient-il un mâle à dos argenté ?
Alors, la réponse est simple, avec l'âge.
C'est ça, c'est uniquement une question d'âge, oui, pas de statut social dans le groupe.
Non, non, c'est très différent de ce que tout le monde pense, et aussi des orang-outans où il y a des mâles alpha qui sont hormonalement dominants.
Ouais.
Au niveau de gorilles, tous les mâles deviennent d'eau noire et sont très jeunes, immatures, et après... à l'âge de la maturation sexuelle, mais au-delà de la maturation sexuelle, ils deviennent argentés. Et ce qui se passe, chez les gorilles de l'Ouest, tous les mâles donc, quittent leur groupe natal et il ne reste qu'un doigt argenté dans le groupe. Or que chez les gorilles de montagne, parfois, il a plusieurs doigts argentés, donc on parle de mâles dominants. Mais chez les gorilles de l'Ouest, on ne parle pas de mâles dominants parce que c'est le seul mâle adulte.
Ouais. Alors, le côté dominant, c'est parce qu'il a réussi à faire fuir tous les autres mâles, finalement. On pourrait le voir comme ça.
Non, parce qu'ils sont ses fils. Et donc, aussi pour éviter des consanguinités, ils quittent le groupe, ils vont former leur propre groupe.
Mais si un mâle s'associe avec plusieurs femelles pour créer son clan, ça veut dire qu'il y a des mâles à dos argenté qui n'y parviennent pas et qui restent seuls, célibataires dans la jungle.
Ça peut être possible. Donc, le dos argenté, le fils qui devient dos argenté devient mâle solitaire. S'il y a la chance... Ils vont former un groupe petit à petit. S'ils ne sont pas très chanceux, ils restent solitaires. Ce qu'on a vu, c'est que plus le dos argenté a une grosse crête, une bosse sous la tête, et plus il est sexy parce qu'il a plus de femelles.
Ah, d'accord. C'est la crête qui rend attractif les mâles. Alors, il y a, on l'entend, hein, beaucoup de conflits. Vous l'avez dit, entre les femelles, entre les mâles qui se chassent de leur groupe arrivé à maturité. Mais il y a aussi, au sein des groupes, des relations fortes d'attachement. Et il y a quelque chose d'assez émouvant, une des scènes à laquelle vous assistez, avec la mort. Alors, on croit qu'il est mort. En fait, il n'est pas complètement mort, mais il y a un arbre qui s'écroule sur un des jeunes mâles du groupe, qui n'est pas encore un mâle à dos argenté. Et sa mère, vous observez la réaction de sa mère, voyant son fils qu'elle croit mort.
Oui, effectivement, j'ai parlé de la mort par rapport à ça, parce que il y avait cette petite qui était sous l'arbre à 35 mètres de terre. Et tout d'un coup, elle tombe et sa voix est vraiment coupée à terre par les choc. Et moi et le pisteur, on commence à pleurer parce qu'on était persuadés qu'elle était morte. La mère descend tout vite de l'arbre et elle essaie de la remettre sous son dos et la petite était totalement inanimée. Elle a essayé 2-3 fois et après elle a pris le corps, elle l'a mis à côté, elle s'est reposée. Et cela, ça m'a fait penser qu'effectivement, chez les grands singes, c'est très renommé un comportement bizarre de garder le petit mort. La mère garde le petit mort jusqu'à la vraiment décomposition du corps. Et il y a différentes théories. Et ça m'a fait penser qu'effectivement, parfois, pour eux, c'est mieux de le garder parce qu'on ne sait jamais s'il va se réveiller ou pas. Et dans ce cas-là, effectivement, après 2 heures, elle a bougé un bras.
Ouais.
Donc, elle est simplement tombée dans les pommes. Ouais. Et après, le jour d'après, je l'ai retrouvée à 50 mètres de terre, tout le monde, y inclut la petite qui était tombée.
Est-ce que vous pensez, d'après vos observations, que les gorilles ont conscience de la mort ?
Oui, donc effectivement, ça me fait penser qu'ils ont conscience de la mort, surtout à partir du fait que quand il y a un individu qui est mort, tout le monde se rassemble autour du corps. Et les femelles dont on parlait avant qui faisaient les bagarres, qui ne s'aiment pas trop l'une avec l'autre, sont l'une proche de l'autre, vraiment physiquement.
Il y a comme un moment de réconciliation, de partage, alors qu'on se chamaille le reste du temps autour du mort, tout le monde se rassemble et se rapproche.
Ce que j'ai vu, c'est que quand il y a une situation problématique, tout le monde se rapproche. Et c'est très intéressant ça, parce que normalement, des individus qui ne s'aiment pas, elles sont empathiques. Et aussi, j'ai vu dans la forêt aussi un dos noir dont on parlait avant, qui a rencontré un potamochère, un grand cochon, un sanglier orange de la forêt, qui était mort. Et là, la réaction aussi de ses frères a été totalement différente que s'il rencontre un potamochère vivant. Et donc là, ça m'a fait penser vraiment qu'il comprend la mort.
C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité à la mort, y compris des animaux qui n'appartiennent pas à leur espèce.
Oui, et c'est ça l'intérêt.
Et là, elle se manifestait comment, cette sensibilité?
Les individus, c'était tous les jeunes du groupe de Makumba, et Tout le monde était très stressé. Il faisait des frappements de poitrine, des urines, des fesses, parce que c'était stressant. Mmh. Et c'était alarmé. Donc, clairement, la situation a été tendue. Mmh.
Vous avez aussi observé, là, c'est presque une enquête policière que vous avez menée, avec certains mâles qui avaient des blessures importantes, mmh. voire des cadavres de gorilles mâles mutilés ou alors vraiment blessés. Et, en gros, on se demandait qui a fait le coup. Vous avez mené l'enquête, rapidement, parce qu'on arrive à la fin, mais qu'est-ce que vous avez découvert ?
Qu'effectivement, les doigts argentés se battaient entre eux et se tuaient entre eux. Ouais. Ce qu'on ne pensait pas, c'était possible, parce ouais. qu'on les voyait toujours se battre, mais pas physiquement. C'est très rare. Dans 25 ans, on a eu 3 cas. Mais c'est, effectivement, ils peuvent se tuer pour défendre leur famille. Ouais. Ils se battent pour défendre leurs ouais. petits et leurs
Donc
familles.
Donc, ils sont capables de commettre des meurtres intra-espèces, ces
gorilles. Une violence entre espèces, mais pour une bonne cause, pour défendre leur famille. Et surtout, c'est quand l'Édouard Janté est vieux, parce qu'il sait que c'est sa dernière bataille pour pouvoir sauver sa famille.
Les gorilles de l'Ouest sont au nombre de combien d'individus aujourd'hui chez Limassi ?
Ils sont 360 000 individus.
C'est-à-dire que c'est un nombre quand même relativement important ?
C'est important, mais ils sont très répandus dans l'Afrique, donc, mais ils sont aussi très, très menacés.
Ouais. C'est-à-dire qu'ils décroissent le nombre
Ils décroissent, la population est en train de disparaître, de diminuer de plus en plus.
Diminuer. Et on sait pourquoi ? Qu'est-ce qui pèse sur eux ?
À cause de la fragmentation de l'habitat, la disparition de leur habitat, on a entendu tout à l'heure le trafic illégal, le braconnage et les Ebola. Qui a tué 90% de la population de gorilles au Congo. Et aussi, aujourd'hui, on pense que les changements climatiques peuvent aussi affecter encore plus les gorilles. Et c'est effectivement une piste que je suis en train de creuser en ce moment.
Vous travaillez sur eux depuis maintenant 25 ans. Qu'est-ce que vous ne savez pas encore que vous aimeriez savoir sur ces gorilles, pour finir ?
On ne peut jamais savoir tout et je voudrais savoir tout sur les gorilles. Donc, il y a beaucoup de choses encore à découvrir.
Bon, eh bien, très bien. Il faudra venir nous raconter les prochaines découvertes.
Avec plaisir.
Merci, Shelly Massi. Je rappelle le titre de votre livre passionnant. Hein. On n'a pas eu le temps de tout aborder, mais il y a à la fois la recherche de terrain, ce que c'est que d'être dans cette jungle avec les mouches qui vous agressent, les vers qui se glissent sous la peau, les tiques, le paludisme, et en même temps les découvertes incroyables que vous faites. Votre livre s'appelle Queen Kong aux éditions Albin Michel. Un grand merci à vous d'être passé par notre bivouac, Shelly.
Merci à vous pour cette invitation.
Restez avec nous. Dans un instant, nous allons retrouver Éric Birloise pour une nouvelle odyssée savoureuse. Aujourd'hui, Éric va nous emmener sur les routes de l'asperge. Everything we ever wanted. C'était Matt Berninger qui chantait No Love sur France Inter. Et merci à l'ami Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
Sens-moi ça, ça sent bon. Ça sent le jardin, ça sent les quatre saisons, ça sent la terre.
Bonjour Éric Berloez.
Bonjour Daniel.
Notre sociologue de l'alimentation préféré qui nous rend visite tous les jeudis pour nous raconter l'histoire d'aliments voyageurs. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'asperge.
Oui, petit légume délicat au goût très fin dont un auteur du 19e siècle écrivait « C'est joli une asperge, c'est gai, on dirait la carte de visite du printemps apportée dans votre assiette ».
Ah, l'asperge c'est ce qu'on appelle un légume-tige, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On consomme les jeunes tiges charnues qu'on nomme les turions. Alors d'abord, elles sont souterraines et puis à chaque printemps, elles jaillissent de terre. D'ailleurs, à ce propos, la forme évocatrice de l'asperge en a fait depuis l'Antiquité un symbole phallique. Il n'en fallait pas plus pour qu'on lui attribue des propriétés aphrodisiaques non démontrées par la science. Je tiens à le préciser à nos auditeurs. La couleur de l'asperge, ça dépend du moment où on la récolte. Elle est blanche lorsqu'elle est cueillie avant sa sortie de terre. C'est pourquoi les cultivateurs forment des petites buttes au pied des plants pour priver les jeunes pousses de lumière. Au contact de la lumière, donc, l'asperge devient d'abord rose, puis violette et enfin verte du fait de la synthèse de chlorophylle par la plante.
Et alors, d'où vient-elle, cette asperge ?
L'asperge sauvage, elle est apparue à l'est de la Méditerranée, en Asie mineure, donc la Turquie actuelle, et dans les steppes d'Europe orientale. Elle s'est ensuite diffusée dans le reste de l'Europe, et plus à l'est, vers l'Orient, en s'installant de façon privilégiée dans les terrains sablonneux et les alluvions des fleuves. Et ce sont ces petites asperges sauvages qui ont d'abord été consommées. La mise en culture de l'asperge a probablement été réalisée au IIe siècle avant notre ère, dans le bassin méditerranéen. Il faut savoir que pour les Grecs et les Romains, les asperges cultivées constituaient un mets de choix. Pline l'Ancien disait un prodige de gourmandise.
Et si l'on poursuit notre voyage dans le temps, qu'est-ce qui se passe ensuite pour les asperges alors ?
Eh bien, au Moyen-Âge, curieusement, la culture de l'asperge semble être redevenue quasi inexistante en Europe occidentale. Il faut attendre le XVe siècle pour que la production soit relancée, d'abord en Hollande et en Allemagne du Nord. On sait qu'elle est présente à Douai en 1469 parce que cette année-là, l'asperge est mentionnée dans l'inventaire des légumes qui sont cultivés dans le potager des chanoines de cette ville de Douai. Et puis ensuite, l'asperge gagne le sud de notre pays. Sous le règne de Louis XIV, Jean-Baptiste de la Quintigny, qui est, vous le savez, le créateur du potager du roi à Versailles, réussit le tour de force d'en offrir au roi Soleil dès le mois de décembre. Il avait mis au point une technique efficace de forçage des asperges sous une cloche de verre. Il stimulait les jeunes pousses avec des apports de fumier de cheval bien chaud.
Et nos grosses asperges blanches, de quand datent-elles, elles ?
Du début des années 1800, lorsque des horticulteurs d'Argenteuil, de Beson, d'Épinay, près de Paris, commencent à sélectionner des asperges précoces et de belle taille, et à pratiquer la culture en butte. Et cette asperge, elle devient un mets de luxe pour lequel on fabrique des services en porcelaine spécialement dédiés à la dégustation. Le soir du 14 avril 1912, on sert aux passagers de première classe du Titanic une salade d'asperges à la vinaigrette. Bon, malheureusement, elle ne leur aura pas porté chance.
Ouais, et du coup, une jolie histoire d'asperges pour terminer, pour pas finir sur cette note un peu triste.
Eh oui, une légende dit que le peintre Édouard Manet avait vendu à un riche collectionneur d'art, Charles Effrussi, un tableau qu'il avait intitulé Une botte d'asperges. Oui. Le prix de la toile était de 800 francs, mais l'acheteur était généreux et en donna 1000 francs. Pour le remercier, Manet adressa à Charles Effrussi une autre peinture qui représentait une asperge unique avec ce mot plein d'humour. Il en manquait une à votre botte. Élégant, non ?
Oui, plutôt et amusant. Merci Éric Birloez. Je rappelle que vous avez publié Le Pain, une croustillante histoire aux éditions Quae. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine.
À jeudi prochain. Au revoir Daniel.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Amis auditrices et auditeurs, merci pour les messages que vous nous laissez sur la page de l'émission sur franceinter.fr et sur les pages Instagram et Facebook sur lesquelles vous êtes de plus en plus nombreux à réagir. On vous lit toujours avec énormément de plaisir et d'intérêt. À demain pour de nouvelles aventures. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Philippe Collin pour sa série Face à l'histoire. Aujourd'hui, les déportés, la libération.